On reparle donc tout de suite de ce nouvel essai nucléaire nord-coréen, tir d'une puissance inédite de la part de Pyongyang, dont les autorités affirment donc avoir testé une bombe H, bombe thermonucléaire à hydrogène, une arme potentiellement plus puissante que la bombe A. Il s'agit du 6e essai nucléaire nord-coréen et ça a provoqué une secousse sismique d'une magnitude de 6,3 près du principal site nord-coréen d'essai dans le nord-est du pays, secousse qui a été ressentie jusque dans le nord-est du territoire chinois. En ligne avec nous, Marianne Perrondoise, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Alors cet essai nucléaire, il intervient après toute une série de tirs de missiles balistiques qui avaient confirmé que Pyongyang avait amélioré ses capacités en la matière.
Oui, absolument. Depuis le début de l'année, et plus particulièrement, on peut dire depuis le début du mois de juillet, on assiste à toute une série de tirs dans le domaine balistique qui ont démontré donc les efforts et la progression technique de la Corée du Nord, mais aussi sa capacité, je dirais, politique à aussi inverser le rapport de force en mettant Donald Trump diplomatiquement au pied du mur. Et ça, c'est tout aussi important, je dirais, que cette perception nouvelle que la Corée du Nord est en train de réussir son pari et donc d'accéder à la capacité nucléaire, mais aussi, je dirais, en termes de leadership, de s'imposer face à une Amérique qui, quand même, militairement et diplomatique, est une puissance de premier ordre. Et cette signification, je dirais, stratégique, elle est extrêmement, extrêmement importante également.
Une démonstration de force, mais paradoxalement, une démonstration qui l'isole, on pense surtout à la Chine.
Oui, alors évidemment, la Chine, jusqu'à une certaine mesure, peut apprécier l'aspect perturbateur de la Corée du Nord quand il s'agit de mettre en échec évidemment la puissance américaine, puisque objectivement on peut considérer que la Corée du Nord reste dans ce domaine l'allié de la Chine. Mais la Chine, elle est également une puissance nucléaire. Elle voit aussi la difficulté, la menace que pose une Corée du Nord potentiellement nucléaire en Asie, mais aussi à l'échelle internationale par rapport à des enjeux liés à la dissuasion au sens large, à la crédibilité du régime de non-prolifération, parce qu'il y a évidemment tout un ensemble d'enjeux militaires et la Chine ne peut pas accepter de se voir mettre en échec aussi d'une certaine façon par la Corée du Nord.
On perçoit bien cette dimension de la démonstration de force, mais on se pose quand même cette question à chaque fois. Que cherche Kim Jong-un ? À quoi ça sert comme ça de multiplier ces démonstrations, d'abord sur les supports de tir, ces missiles, là sur une bombe, on parle d'une bombe H, à quoi cela sert-il ?
Eh bien, la Corée du Nord veut se voir reconnaître le statut de puissance nucléaire et donc elle veut manifester son indépendance stratégique. À partir de là, c'est vrai, le régime gagne sa garantie de survie, je dirais, en tant que régime politique, c'est quand même un régime totalitaire. Et donc, sur le plan intérieur, il faut sans cesse faire la démonstration de sa puissance pour sa population, mais effectivement, face au Japon, face à la puissance militaire des États-Unis qui sont présents dans la zone Asie, la Corée du Nord, elle acquiert aussi une forme d'indépendance et elle fait la démonstration, quelque part, de sa puissance. N'oubliez pas que, finalement, on est toujours dans une logique de revanche sur l'histoire que prend la Corée du Nord, qui a toujours en tête non seulement la guerre de Corée, et aussi la longue période historique de colonisation du Japon. Donc Kim Jong-il, c'est celui qui finalement redonne une certaine fierté à la Corée du Nord en reconquérant la puissance militaire du pays.
Avec donc des idées, des pensées nationalistes qui expliquent cette montée en puissance et de l'autre côté, la réaction américaine qui se fait encore attendre, puisque pour l'instant, on a juste entendu des responsables américains assurer Tokyo de l'appui indéfectible de Washington.
Oui, alors dans l'affaire, finalement, si on regarde très vite, on peut estimer que Donald Trump a fait étalage d'une impulsivité assez brouillonne, a menacé à plusieurs reprises d'une option militaire.
Il avait utilisé le terme de feu et de fureur à l'encontre de Pyongyang, et il y avait eu beaucoup de réactions internationales après ces déclarations.
Absolument, parce que le paradoxe, c'est que finalement, dans la situation actuelle, Donald Trump se trouve quelque peu décrédibilisé, ayant accumulé un certain nombre de métaphores très très agressives et ayant implicitement tracé des lignes rouges vis-à-vis de la Corée du Nord. Et celle-ci, tout en répondant d'ailleurs sur le même ton, mais on avait l'habitude de ce ton excessif et on l'admettait du côté de la Corée du Nord et certainement pas de Washington, eh bien celle-ci a tranquillement, je dirais, fait la démonstration de ses capacités. Et donc est en train de mettre Donald Trump au pied du mur, sachant que ni la Corée du Sud, ni le Japon, et a fortiori la Chine, j'ajouterais également la Russie, ne soutiendraient l'optique d'une option militaire et d'un recours à une frappe de la part des États-Unis. Donc il y a une manière de blocage de la situation et quelque part un piège dans lequel s'est enfermé Donald Trump. Et c'est le problème de toute la situation actuelle, c'est de trouver une solution de sortie par le haut, où finalement on essaye de sauver la face, sachant que de toute façon Kim Jong-un ne transigera pas sur ses capacités nucléaires, quel que soit en face ce qui lui est éventuellement promis.
Solution de sortie avec cette hypothèse que l'on évoque, mais tout reste encore à faire. Sanctions à l'ONU et en particulier sanctions du côté de l'énergie de la part de la Chine. Est-ce que, selon vous, c'est crédible de voir justement Pékin assécher ses ressources énergétiques de Pyongyang?
Alors, c'est vrai que depuis le début, on s'interroge sur l'ambiguïté de la position chinoise. Et peut-être au fond qu'il faudrait admettre que la Chine elle-même ne voit pas très bien comment sortir de la situation. Elle aimerait obtenir des garanties de la part des États-Unis, des garanties de sécurité. Elle aimerait aussi mettre en échec ou en tout cas stopper la course aux armements qui s'est installée dans la région avec la mise en place de défenses antimissiles qui sont apparemment dirigées contre la Corée du Nord, mais qu'elle estime aussi être une menace pour sa propre dissuasion, mais en même temps, c'est vrai qu'elle aussi, elle ne peut pas admettre une Corée du Nord qui s'écroulerait, qui serait trop trop fragile, parce qu'en fait, ce qu'elle redoute, c'est le scénario final et à long terme de la réunification d'une péninsule coréenne sous influence américaine. Donc décider des embargos supplémentaires, donc renforcer les sanctions, effectivement on est toujours en train de s'en tenir à une option diplomatique. Ce qu'il faudrait faire, c'est arrêter la progression militaire de la Corée du Nord, bien entendu. Et donc on parle beaucoup d'un nouvel embargo qui serait sur le pétrole et qui empêcherait la Corée du Nord de continuer à se livrer à des activités militaires et notamment à des essais. L'objectif à long terme, c'est de la faire revenir à la table des négociations. Mais encore une fois, si la Corée du Nord accepte de revenir à la table des négociations, elle le fait en position de force. Et donc, il faut effectivement réfléchir à ce que la communauté internationale souhaite lui offrir en échange de quelque chose qui ne pourra jamais être qu'un gel de son programme nucléaire et balistique, mais certainement pas une optique de dénucléarisation comme jusqu'à présent le souhaite et continue de le souhaiter la communauté internationale.
Merci.
J'en ai bien peur.
Merci beaucoup Marianne Perron-Doise. On va rester dans cette région puisqu'un rendez-vous de premier plan commence dans la région, dans le sud-est de la Chine, où se retrouvent jusqu'à mardi les dirigeants de 5 pays émergents. C'est le sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Afrique du Sud et donc l'hôte chinois, 40% de la population mondiale. Sylvie Matelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Alors avant d'en venir à proprement parler à ce sommet à 5, l'essai nord-coréen, la Russie avait fait part de ses craintes ces derniers jours. La Chine était plutôt restée en retrait, mais ces dernières heures, c'est le temps de la condamnation.
Oui, et il est clair que le sommet qui se réunit ces jours-ci ne va pas manquer de fixer ce dossier peut-être imprévu à l'agenda, parce que c'est un sujet clé surtout pour la Russie et surtout pour la Chine.
On le disait, avec l'attente d'une initiative chinoise forte après cette escalade.
Tout à fait.
Alors, on revient à ce sommet des BRICS. Ce sera très certainement l'occasion d'avancer sur d'autres différents bilatéraux, peut-être un petit peu moins aigus, comme les tensions sino-indiennes après 2 mois de crise frontalière entre ces 2 géants régionaux.
Oui, et vous aurez noté d'ailleurs que ces 2 pays se sont bien appliqués à lisser ces tensions depuis la fin du mois d'août et qu'il a été expliqué côté chinois en particulier qu'elles n'interviendraient pas dans des négociations qui sont essentiellement économiques et financières dans le cadre du sommet des BRICS, puisque l'idée ici est de donner une nouvelle impulsion à la banque qui a été créée par ces pays.
Alors justement, c'est différents territoriaux, mais en toile de fond, il y a quand même justement ces relations commerciales. On pense en particulier aux ambitions chinoises, leur route de la soie, un projet qui est plutôt mal vu du côté de New Delhi.
Oui, on est en présence des 2 puissances asiatiques ou des 2 pays qui peuvent vraiment jouer le rôle de puissance régionale. Donc il y a une concurrence qui existe depuis des années, qui ne va pas s'amenuiser dans les années qui viennent. Et il est bien évident que chaque initiative que prend l'une des 2 puissances en Asie est forcément mal vue par l'autre, de la même manière que les conjonctures économiques. Les différences se sont amplifiées ces dernières années parce que la Chine traversait des difficultés économiques alors même que l'Inde se portait bien et que la croissance économique de l'Inde ces 2 dernières années avait dépassé la croissance économique chinoise. Officiellement et au vu de la croissance chinoise, il est très probable que le dynamisme économique de l'Inde ait été bien plus fort ces 2 dernières années que le dynamisme économique de la Chine, ce qui était une nouveauté pour l'Inde sur cette période. L'Inde aujourd'hui est affaiblie par différentes... L'économie indienne est affaiblie pour différentes raisons. Il est bien évident que cela relance à la fois la volonté de coopérer, de travailler ensemble en Asie, alors même que ces 2 pays sont des partenaires très éloignés. Hein, l'Inde et la Chine sont, ou l'Inde est le 13e partenaire économique de la Chine. Et dans le même temps, ça crée des suspicions, des volontés de contrôler une économie régionale ou même la politique et la géopolitique régionale entre les 2 pays.
Alors, volonté de coopérer qui est peut-être d'autant plus accentué par le sentiment protectionniste dont Donald Trump est le porte-parole sur la scène internationale.
Oui, tout à fait. Alors là, on est plus du côté chinois, excusez-moi. On voit la Chine et en particulier Xi Jinping se démener sur la scène internationale. On l'avait vu à Davos en janvier défendre de manière relativement étonnante dans le contexte le libre-échange et le système capitaliste. Donc on est très clairement dans un moment où les Chinois veulent reprendre la main, les Chinois veulent prendre un certain nombre d'initiatives, sentant bien que la politique économique de Trump, dans l'incertitude actuelle de cette politique, puisque pour l'instant il n'y a pas grand-chose qui a bougé de ce côté-là, mais dans la perspective qui est également lancée par les discours protectionnistes de Donald Trump, la Chine veut se positionner, veut défendre un système économique, veut défendre une mondialisation économique qui lui a quand même permis d'émerger de manière assez notable et de devenir la 2e puissance économique au monde ces dernières années.
Sylvie Matelli, merci beaucoup. Vous êtes l'auteur de L'Europe face à la mondialisation avec Bastien Niver à la Documentation française.